Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « L'importance de la rédemption ». Et ce matin, nous en sommes à l'étude numéro 3 et nous aurons quatre petits messages. Le premier message sera la guérison d'un aveugle. Cela se trouve dans Saint Marc, chapitre 8, versets 22 et 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Jésus est allé à Bethsaïda et là, il a guéri un aveugle. Tout d'abord, il a essayé de le faire sortir de son village et de l'atmosphère, oui, on peut bien dire, de l'atmosphère d'incrédulité, c'est cela, qui entourait toute cette région. De plus, durant son ministère, Jésus a employé diverses manières pour guérir. Un jour, il a fait de la boue avec sa salive. Une autre fois, il a simplement parlé. Ici, il a demandé, après l'imposition des mains, s'il voyait quelque chose. Pourquoi cela? Parce qu'il sentait, que cet homme n'avait pas la foi complète. L'homme a fait cette première réponse. Je vois les hommes comme des arbres. Il avait reçu une guérison partielle. À qui était la faute? Eh bien, cet homme n'avait pas une foi totale. Et ça nous arrive à tous. Alors Jésus imposa les mains une seconde fois et l'aveugle fut complètement guéri. Alléluia. Remarquez que Jésus, le Fils de Dieu, a été obligé de prier deux fois. Cela nous aide à comprendre pourquoi aujourd'hui encore nous prions plusieurs fois pour les mêmes malades. Il manque souvent quelque chose chez la personne qui veut être guérie, mais soyons honnêtes et humbles, car parfois, cela peut aussi venir de moi, de celui qui impose les mains, ou de celle qui impose les mains, mais jamais du Seigneur. Après la guérison, Jésus recommanda à l'homme de rentrer chez lui. Il savait que s'il revenait chez lui, il aurait pu rencontrer des incrédules et sa foi aurait été ébranlée. Rappelez-vous ce qui arriva à l'aveugle-né dont le récit nous est rapporté dans Saint Jean chapitre 9. Tout d'abord, les Juifs nièrent le miracle. Puis, ils ont fait venir ses parents pour qu'ils confirment son infirmité. Et puis ensuite, ils voulèrent démontrer, en quelque sorte, ils ont voulu démontrer que Jésus ne venait pas de Dieu. Ça, c'est très grave. Et à la fin, l'homme s'est tout de même expliqué. Il s'est écrié, « Je ne sais si cet homme est un pécheur, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Saint Jean, chapitre 9, verset 25. Ainsi, vous rencontrerez des incrédules qui feront des objections et essayeront de vous décourager. Dans ce cas, tenez ferme et donnez tout simplement votre témoignage. J'aimerais vous citer un cas extraordinaire. On demanda de prier à un pasteur pour une sœur aveugle. Il a prié 5 fois, 5 fois, pour qu'elle puisse avoir une réaction positive. Et pour elle, c'est la 5e fois, en quittant la salle, là, elle a senti quelque chose dans son corps. Et le lendemain, elle voyait clair. Voyez-vous, c'était pas seulement 2 fois, il a fallu 5 fois. On peut critiquer cela, on peut dire n'importe quoi, mais ne soyons pas méchants. Qui sommes-nous? Et c'est ça qu'il faudrait plutôt nous poser la question. Pourquoi cette dame fut-elle guérie à la 5e fois? Dieu voulait sans doute l'amener à une position de foi réelle. Voici un autre cas. Une sœur avait été guérie d'un cancer à la première imposition des mains. Donc là, c'était à la première imposition des mains, elle était guérie. Et elle pensa tout à coup à son cher frère qui était aveugle depuis 8 ans. Cet homme était incrédule, révolté contre Dieu. Là, sa sœur a dit au pasteur, et là c'était la sœur du pasteur qui lui dit, « Viens !» Il ne le voulait pas. Mais enfin, un jour, le pasteur se décida tout de même. Quand il aperçut cette personne dans l'auditoire, il remarqua son visage fermé et très dur. Et puis, au fur et à mesure que le pasteur parlait, les traits de cette personne s'adoucirent. Et écoutez ce que le pasteur nous dit. Laissons-le parler. Après la première imposition des mains, il put apercevoir mes mains comme dans une ombre. Et il est revenu une seconde fois avec une confiance encore plus grande. J'ai prié pour lui et Dieu dépassa notre attente. Au-dessus de ma tête, il y avait une horloge et figurez-vous, cette personne a pu lire l'heure exactement. Arrivé à la maison, une lutte commença dans son cœur. Il réfléchissait. Et tout à coup, il fut envahi par le doute et il se dit, « Oh là là, est-ce vraiment Dieu qui a provoqué ma guérison ?» Ou est-ce tout simplement le hasard? C'est certainement le hasard. Comme on dit des fois, c'est quelque chose qui m'est arrivé, ça a dû être. Et quand il se coucha, il ne savait plus où il en était. Le lendemain, croyez-moi ou pas, il s'est réveillé totalement aveugle. Alors, il a enfin compris, il a compris qu'il n'aurait pas dû douter et son cœur fut brisé. Il est revenu pour entendre le message de l'Évangile et il accepta Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Quelque temps après, il fut baptisé, toujours encore aveugle. Mais en sortant des eaux du baptême, il reçut la vue. Il prit le Nouveau Testament et il le lut. Et à partir de ce jour-là, il l'a vu clair et il a repris son travail de facteur. Voyez-vous, il a compris qu'il y avait aussi des choses que nous devons aussi faire. Nous ne pouvons pas seulement penser que le Seigneur est notre valet, qu'il nous doit tout, que c'est à lui d'agir et il nous doit bien ça. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut penser. Vous voyez, quand cet homme fut dans de bonnes dispositions spirituelles, là, il fut guéri. Il peut en être de même pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. Mais peut-être y a-t-il des aveugles spirituels. Ça, c'est donc la chose qui nous arrive à la plupart d'entre nous, d'être aveugle spirituel. Moi, j'étais aveugle spirituel pendant de très, très nombreuses années. Chrétien de nom, un peu religieux, mais aveugle spirituellement. Alors, ils n'ont pas vu la vérité de l'Évangile. Vous souvenez-vous des réponses qui ont été données à Jésus quand il posa la question « Qui dit-on que je suis ?» On lui donna diverses réponses. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es peut-être Élie, Jérémie ou l'un des nombreux prophètes. Seul l'apôtre Pierre a affirmé « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Alors que les autres étaient des aveugles spirituels, l'apôtre Pierre, lui, il voyait clair spirituellement. Si je demandais à chacun « Maintenant, que pensez-vous de Jésus ?» J'obtiendrai différentes réponses. Les Juifs ont dit que c'est un imposteur. Les musulmans, éventuellement un prophète. Parmi les peuples christianisés, ils dirent que c'est le fondateur d'une nouvelle religion, en quelque sorte un surhomme. Et vous, personnellement, qu'en pensez-vous? Quelques-uns disent qu'il est le sauveur du monde, mais ce n'est pas suffisant. Si vous pouvez dire Jésus-Christ est mon sauveur personnel, c'est que vous avez la vue complète. Vous êtes donc plus du tout aveugle spirituellement. Où en êtes-vous aujourd'hui? Si vous êtes un aveugle spirituel, Jésus peut vous ouvrir les yeux et comment? La question se pose pour vous. Que pensez-vous de Jésus-Christ? Nous arrivons au deuxième petit message et nous avons là la guérison d'un sourd muet. Il est dit dans Saint Marc, chapitre 7, verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Dans les évangiles, nous n'avons que deux récits concernant la guérison de sourds muets. Le premier est celui qui nous occupe dans notre passage ce matin. Le second se trouve dans le même évangile, au chapitre 9 et au verset 25. Cette infirmité était causée par la présence d'un mauvais esprit. Ça peut arriver. Car en ce temps-là, Jésus traversait le territoire de Tyr et de Sidon, et là il arriva par la Décapole, et Jésus y était déjà passé dans cette région. Et c'est là qu'un démoniaque possédé de plusieurs démons avait été délivré, et les esprits mauvais étaient entrés dans les pourceaux qui s'étaient précipités des pentes escarpées dans la mer. Il n'avait pas seulement deux ou trois démons, il en avait des quantités inimaginables. Cette fois-ci, Jésus ne voulait pas s'y arrêter. Mais sans doute, le démoniaque guéri avait rendu son témoignage et un homme lui amena un sourd-muet. Jésus prit cet infirme à l'écart du village, loin de la foule, dans un endroit solitaire et en dehors de l'influence de l'incrédulité. Voyez-vous, même Jésus a dû mener cet homme dans un endroit, il est dit, hors de l'influence de l'incrédulité. C'est important de nous rappeler de ça, parce que si, par exemple, un homme, une femme, impose les mains, même si c'est dans une église, et qu'il y a une influence d'incrédulité autour, ce ne sera pas la faute à cet homme ou cette femme que la personne n'est pas guérie. Je ne sais pas, je vous laisse réfléchir à la réponse. Donc, revenons à Jésus. Il a mis ses doigts dans ses oreilles, il a touché sa langue, même avec sa propre salive, et il soupira et il a dit « Ephphatha », plutôt « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ».« Ephphatha, ouvre-toi ». Le miracle s'est fait à l'instant même. Sa langue fut dégagée et il a pu entendre. Vous remarquerez que en ce qui nous concerne, nous imposons les mains sur la tête car c'est la règle et je pense que Jésus a le plus souvent imposé les mains de cette façon-là. Un jour, une jeune fille qui avait carrément des crises d'épilepsie, elle fut également guérie. Elle restait encore sourde, c'est vrai. Et là, le pasteur de cette église a prié de tout son cœur et avec force. Et il a même chassé le démon. Donc, l'Esprit-Saint lui a montré qu'il y avait un esprit en elle qui la rendait ainsi. Et elle a été guérie sur le champ, à Rennes, en Bretagne. Une femme qui était sourde depuis 5 années a été délivrée. Il y a eu des guérisons semblables lors d'une mission à Angers. Or, après la guérison de cet homme, Jésus recommanda de ne le dire à personne. Mais plus il le leur commanda, plus ils le publièrent. Il en est toujours ainsi. Quand vous dites à quelqu'un de ne pas répéter, c'est carrément impossible. Il le dit à tous. Il fait exactement le contraire. On ne sait jamais comment faire. Si l'on vous dit de vous taire, vous parlerez. Et si l'on vous dit de parler, vous ne dites rien. C'est ainsi qu'est faite la nature humaine. Après ce miracle, toute la contrée fut étonnée et les gens ont dit « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Saint Marc, chapitre 7, verset 37. Voulez-vous savoir ce que est un sourd spirituel? Essayez de donner votre témoignage autour de vous et vous verrez combien peu vous entendent vraiment, combien peu de gens vont s'y intéresser. Je voudrais vous proposer un exemple, celui de l'apôtre Pierre. Voyez-le dans la cour du souverain sacrificateur, il est muet quant à sa foi. Et s'il parle, c'est pour renier son maître. Mais après la Pentecôte, là, croyez-moi, tout a changé. Il est rempli du Saint-Esprit. Sa langue est déliée, il parle dans un nouveau langage et la crainte l'a quitté. Il parle de Jésus avec assurance et devant la foule. Il affirme même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Actes chapitre 2, verset 23. Dieu a délié sa langue. Oui, nous pouvons dire que Dieu fait tout à merveille. Il veut vous transformer aujourd'hui. Il veut vous sauver et même vous guérir. Nous arrivons au troisième petit message. Là, nous avons la guérison d'un boiteux. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Et cela pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, ont fixé les yeux sur lui, et lui ont dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir une petite pièce d'argent. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Cela se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 et 6. Tel est donc le récit de ce miracle dans son admirable simplicité. Pourtant, puisque ce boiteux était à la porte du temple depuis si longtemps, il avait dû rencontrer Jésus, mais Jésus ne l'avait pas guéri. Sans aucun doute, le Seigneur savait. Il savait ce qui allait se passer avec l'apôtre Pierre, et surtout qu'en cette occasion, après le message du salut, 3000 hommes allaient se faire baptiser. D'ailleurs, le point central de la prédication, c'est la résurrection. L'apôtre Pierre affirme: vous avez fait mourir le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Actes, chapitre 3, verset 15. Ce miracle était une preuve de la résurrection du Sauveur. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé lors de la résurrection? L'évangile de saint Matthieu, chapitre 28, nous en donne tous les détails. On avait placé une garde au sépulcre et la pierre du tombeau était scellée. Mais il y avait eu un tremblement de terre et un ange descendit du ciel pour rouler la pierre. Les soldats furent saisis de frayeur. Ils allèrent annoncer aux sacrificateurs ce qui était arrivé, mais ceux-ci, pour les faire taire, leur donnèrent une forte somme d'argent. Et ce gros mensonge a été cru par Israël, et croyez-moi ou pas, on peut dire même jusqu'à nos jours. Or, au chapitre 28, sauf erreur, Matthieu 28, verset 12, Pierre fait une déclaration importante. Il dit: pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous aurions fait marcher cet homme? Sachez que seul le nom de Jésus-Christ apporte la guérison. Et il précise: c'est par la foi en son saint nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16. Donc, la guérison de cet homme était une preuve que Jésus était ressuscité et qu'il pouvait intervenir. Mais quelqu'un dira: oh, dans notre monde aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de dire que Jésus-Christ est ressuscité. On le sait depuis longtemps. Oui, on le sait. Et on le dit comme d'une chose, on peut dire, historique. C'est presque de la mythologie. C'est de cette manière que beaucoup croient en Jésus. Il a passé sur la terre une trentaine d'années et il est parti. Ce dont nous avons besoin de croire, c'est dans un Sauveur vivant. Un Sauveur vivant qui peut intervenir en notre faveur et répondre à nos besoins. Nous avons besoin d'un Christ qui sauve les pécheurs et qui guérit les malades comme il le faisait autrefois. C'est la raison pour laquelle Dieu a guéri le boiteux à la porte du temple. Immédiatement après ce miracle, Pierre et Jean furent conduits au tribunal. Habituellement, ce sont les malfaiteurs que l'on juge. Mais ces deux hommes étaient des bienfaiteurs. Les juges posèrent tout d'abord cette question: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Actes chapitre 4, verset 7. Ils reconnurent qu'il y avait un miracle indéniable. L'homme guéri était là devant eux. Chers amis, quand la preuve est là, il n'y a plus rien à dire. Pour se défendre, Pierre n'alla pas chercher un avocat. Son avocat était au ciel et le Saint-Esprit, il est maintenant sur la terre. L'apôtre Pierre se souvient de cette parole de Jésus: quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 19 et 20. L'apôtre Pierre, dans sa réponse, embarrassa le Sanhédrin. Il affirma que ce Jésus, qu'on disait mort, était ressuscité et par son Saint-Nom avait lieu ce miracle. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité des morts, oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 10. Chers auditeurs et auditrices, nous avons besoin d'utiliser le Saint-Nom de Jésus-Christ comme une arme offensive. Savez-vous que les démons doivent fuir? Ils doivent fuir devant le Saint-Nom de Jésus-Christ. Les malades doivent être guéris. Ce nom peut devenir un grand moyen de bénédiction et de grâce. L'apôtre Pierre dit encore au Sanhédrin: la pierre rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale de l'angle. Actes chapitre 4, verset 11. Pendant tout son ministère, les chefs religieux avaient examiné Jésus, mais il fallait changer tellement de choses. Alors ils le rejetèrent, ils l'ont rejeté. Et cette pierre qu'ils ont rejetée, elle est devenue la principale de l'angle, non pas dans la synagogue, mais écoutez bien, dans l'Église universelle. Nous faisons partie de l'Église qui est bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que l'apôtre Pierre dit de lui: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, car il est dit dans l'Écriture sainte: voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 et 6. Cette pierre précise sur laquelle l'Église est bâtie, c'est Jésus-Christ. Chers auditeurs, sur quoi votre vie repose-t-elle? Quel en est le fondement? Si ce n'est pas Jésus-Christ, votre maison est bien fragile. Jésus, dans une parabole, a parlé de deux maisons, celle qui était bâtie sur le roc, sur lui, et l'autre sur le sable, la religion. Pardon. Lorsque le vent a soufflé et la pluie est tombée, la maison bâtie sur le sable s'est écroulée. Mais celle qui était bâtie sur le roc, sur Jésus-Christ, a résisté. Maintenant, je remarque ce verset que je trouve merveilleux. Actes chapitre 4, verset 12. « Il n'y a de salut, est-il dit, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le salut nous est acquis par le saint nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le salut nous apporte? Tout d'abord, nous recevons le pardon des péchés, puis nous recevons la vie éternelle. Et de nombreuses bénédictions durant notre pèlerinage sur la terre, on les reçoit également, telles que la guérison de nos maladies, la délivrance de nos épreuves, la paix dans nos cœurs. Le salut, c'est la plus grande chose que nous puissions recevoir de la part de Dieu, notre Père céleste. Et notre quatrième petit message, c'est les ouvriers de la 11e heure. Voyons cela de plus près. Ouvrez votre Bible dans Saint Matthieu, au chapitre 20, le verset 1 et le verset 16. Là, il est dit, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il a donc convenu avec eux de leur donner un denier par jour. Il sortit vers la troisième heure et il en a vu d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Ils étaient probablement au chômage pour l'instant. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit exactement de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous trouvez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Il s'agit là d'une parabole du Seigneur Jésus-Christ qui représente une vérité spirituelle. Jésus place devant nous ses vérités au travers des faits et des détails de la vie de chaque jour. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que la parole, plutôt cette parabole, ne veut absolument pas dire. Et ensuite, je vous donnerai une explication valable. Enfin, je vous donnerai la véritable explication. Il est ici question du royaume des cieux. Il s'agit de justice et non pas d'une justice terrestre, mais de la justice de Dieu. Jésus-Christ dit que le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sort de bon matin pour louer des ouvriers pour son champ. Certains disent que ces ouvriers sont les gens du monde qui sont appelés au salut, les uns très tôt, les autres très tard dans leur vie. Oui, ça arrive. Or, cette parabole, elle ne concerne pas du tout le salut, car il est question d'un salaire. C'est pas la même chose. Or, le salut, voyez-vous, n'est pas un salaire, c'est un don. Personne ne peut travailler pour gagner son salut. Il y en a qui le croient, mais c'est faux. C'est un don gratuit, c'est la grâce du Seigneur. Aucune œuvre de nos mains ne peut être présentée à Dieu pour le salut de notre âme. Le salut est une grâce, c'est un don. Il n'est pas question de salaire pour un travail accompli. Donc, dans cette parabole, il n'est pas question d'être sauvé à 20, 40 ou 60, voire même à 80 ans, quoique l'on puisse présenter le cas du brigand sur la croix. Rappelez-vous, il n'a pas eu 30 ans pour réfléchir. Cet homme ne s'est pas converti à la 11e heure, mais il s'est converti à minuit moins une minute, juste avant de mourir. Cependant, ce n'est pas là ce que Jésus veut enseigner. Dans cette parabole, nous voyons que la vigne appartient au maître. C'est sa propriété. La seule chose à faire pour les ouvriers, c'était de répondre à son appel et de travailler. C'est là une grande faveur que Dieu nous accorde. Si vous avez été sauvé, ce n'est pas tellement parce que vous avez cherché Dieu, mais c'est Dieu qui vous a cherché et vous a appelé. Dans Saint Jean, chapitre 15, verset 16, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Dieu vous a donc choisi dans ce monde pour que vous en sortiez. C'est donc le maître qui est allé chercher des ouvriers et non les ouvriers qui sont allés chercher le maître pour trouver du travail. Quoique cette parabole ne concerne pas le salut, on a dit, on peut trouver quand même une certaine application spirituelle. Les ouvriers de la première heure, ce sont les apôtres qui ont prêché l'évangile jusqu'aux extrémités du monde. Il y a là les missionnaires. Ceux de la troisième heure sont ceux qui ont évangélisé l'Europe. Les grands réformateurs pourraient être placés dans la sixième heure. Quant à la neuvième heure, eh bien, nous pouvons considérer que c'est le grand effort missionnaire, je l'ai déjà dit, du 16e et du 18e, surtout le 18e et le 19e siècle. Je le répète, c'est donc un grand effort qui a été fourni par les missionnaires du 18e et du 19e siècle, ça c'est une certitude. Actuellement, nous sommes dans la 11e heure. Dieu a suscité le mouvement de Pentecôte à cette époque afin que nous soyons ses témoins. Nous sommes à la fin de la dispensation de la grâce. Il y en a peu qui le croient, mais c'est vrai. Minuit va bientôt sonner à l'horloge de l'humanité. Même s'il y en a qui disent, on dit cela depuis plus de 2000 ans. Non, si quelqu'un étudie soigneusement, d'une façon sérieuse, les Saintes Écritures, aussi bien Ézéchiel, Daniel, l'Apocalypse, soigneusement, eh bien, par le Saint-Esprit, il ou elle comprendra, et par tout ce qui arrive maintenant, tous les bouleversements dans cette humanité, sur cette planète pourrie, où tout est chambardé, eh bien, n'importe qui peut comprendre que quelque chose est en train de se terminer. Cependant, la parabole ne parle pas de salut, mais elle parle de travail. D'ailleurs, si Dieu nous a sauvés, c'est pour le servir, me semble-t-il. Nous sommes appelés à être les ouvriers de la 11e heure. Il y en a qui l'ont bien compris, c'est l'armée du salut, où c'est bien institué et répété à chacun, à chacune, sauvé pour servir, Salvation Army, armée du salut, sauvé pour servir. Revenons à ce que Jésus a dit. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il faut tout d'abord admettre que lorsque quelqu'un est sauvé, il est automatiquement appelé à travailler pour le Seigneur, me semble-t-il. Dieu ne nous appelle pas à rester dans l'indolence, à Hawaï ou à Honolulu, entre deux palmiers, en train de se bronzer au soleil. Nous sommes sauvés pour servir. Il s'agit donc ici d'ouvriers, et Dieu a fixé avec eux un denier, il leur a fixé un denier pour salaire pour toute une journée de travail. Or, ceux qui sont arrivés à la 11e heure reçoivent absolument la même somme que les premiers. Ça paraît évidemment incroyable. Nous devons comprendre aussi ce que est un denier. Il faut nous rappeler qu'au tribunal de Christ, il y aura des récompenses. Eh oui, le Seigneur passera en revue les œuvres que nous avons faites et il fixera la récompense accordée. Il y a là une grande différence avec le salut. Le salut est très bon, c'est un don de Dieu, c'est une grâce qu'il nous fait. Nous recevons le pardon des péchés et nous recevons ainsi la vie éternelle. Dans cette parabole, il est question non de la quantité de travail, mais il est question de sa qualité. Et il est aussi question au motif qui l'a inspiré. Nous pouvons dire que ce dernier représente la grâce pour un travail fidèle. Si donc vous pouvez travailler pour le Seigneur avec les moyens que vous avez, vous recevez votre denier pour récompense. Maintenant, je voudrais vous donner une explication en proposant un simple exemple. Voici plus de 40 ans que je travaille pour le Seigneur. Si je vais dans une ville où je trouve un homme de 60 ans qui accepte le Seigneur, il reçoit comme don le salut de son âme. Oui, il reçoit gratuitement le salut de son âme et de son esprit. Et voici qu'il travaille de tout son cœur jusqu'à 70 ans, puis là, il entre dans la gloire. Croyez-vous que Dieu dira au tribunal de Christ, « Donnez à Henry une couronne plus belle que à cet homme qui est venu que très tard. » Non, 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 pas du tout. Si cet homme a fait un travail fidèle, il lui donnera autant, tout à fait autant, que à celui qui s'est consacré toute une vie. Bien sûr, pour certains, ça peut paraître injuste, mais pas selon les critères divins. Dieu ne regarde pas à la quantité. Il ne nous dit pas de travailler 24 heures sur 24 et de ne jamais se reposer. Mais il regarde au cœur et discerne les motifs cachés. Je voudrais vous rappeler une parole de saint Paul qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a donc pourvu au salut pour chacun. Il savait à l'avance que vous l'accepteriez. Il a placé devant vous un travail à faire. Il est là devant vous et vous devez vous y consacrer de tout votre cœur, que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 70 ans. Notez que si les derniers ouvriers ne sont pas allés à la première heure, ce n'était pas leur faute. Quand le maître arriva sur la place, il les a vus et il leur a demandé « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui ont répondu « C'est que personne ne nous a loués. » Immédiatement, il leur a donné du travail et tous ont répondu à son appel. Je ne sais où vous en êtes, chers auditeurs et auditrices, mais le Seigneur a préparé un travail pour chacun d'entre vous. Si vous travaillez fidèlement, il vous récompensera au maximum, et cela, quelle que soit la durée de votre service. Ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question simplement de fidélité. Quand le maître a vu les ouvriers venus en retard, il ne décida pas de leur donner un denier, mais il leur a dit, je vous donnerai ce qui sera convenable. » Saint Matthieu, chapitre 20, verset 4. Ces gens-là sont allés travailler, ne sachant pas ce qu'ils allaient recevoir, mais comptant sur la parole du Maître. Il est certain que lorsque nous recevons notre récompense au tribunal de Christ, nous en éprouverons une grande joie et nous bénirons éternellement le Seigneur. Remarquez que le montant du salaire était de 1 denier. C'était juste ce qu'il fallait par jour en ce temps-là pour payer la nourriture. Il n'y avait rien pour le lendemain. Mais pour nous, la récompense sera éternelle. Gloire à Dieu. Vous qui êtes jeunes et vous qui êtes nettement plus âgés, placez-vous à la disposition du Maître, quel que soit votre âge, et s'il vous demande à travailler, soyez prêts à le faire. Il y a du travail pour tous. À la place de penser que nous avons ou que nous touchons notre retraite à 65 ou 68 ans, eh bien, il n'est pas nécessaire de simplement s'asseoir dans un bistrot. Je ne dis pas cela pour juger, pas du tout. Et on peut aussi s'asseoir ailleurs et attendre peut-être la mort. Non, bougeons-nous pour le Seigneur. Et je répète, il y a du travail pour tous. Si Dieu a appelé les ouvriers, les uns, pour 12 heures, rappelez-vous, les autres pour 9 heures, pour 6 heures, pour 3 heures, et même pour 1 heure. Il savait ce qu'il faisait. Il est inutile de vous dire que nous sommes dans les derniers jours. N'importe qui raisonne un peu le constate. Deux choses se préparent, la moisson et la vendange. La vendange suit de près la moisson. Jésus-Christ a prié le Père d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Cette prière est de toute actualité. Si nous regardons autour de nous, nous voyons que la moisson se prépare et la vendange également. Nous trouvons une autre pensée dans Saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 et 31. Il est dit « Que vous en semble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il s'est repenti et il y alla. Il est allé travailler. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et le fils a répondu, « Oh, je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Cette parabole concerne les chrétiens. Ce sont eux les enfants de Dieu. Cet homme dit à son fils d'aller travailler dans la vigne et celui-ci répond « Je ne veux pas ». Dans la vie chrétienne, il y a des gens, lorsqu'ils arrivent au salut, disent à Dieu « Oh, je veux bien être sauvé, ça en tout cas, et recevoir toutes les bénédictions, mais surtout ne compte pas sur moi pour faire quoi que ce soit. » Puis tout à coup, ils entendent un message pressant qui les bouleverse. Et ils répondent à l'appel pour servir Dieu. Tandis qu'il y a d'autres, le jour de leur baptême, ils font de nombreuses promesses. « Ô Seigneur, je ferai tout ce que tu voudras. » Et au bout d'un certain temps, on constate qu'ils n'ont absolument rien fait du tout. Or, ce n'est pas une question de parler, mais c'est une question d'agir. Ce ne sont pas les paroles qui comptent, mais ce sont les faits. Peut-être avez-vous promis à Dieu de telles choses, vous êtes prêt à consacrer votre vie au Seigneur, ou en êtes-vous, je vous le demande, où en êtes-vous aujourd'hui, mes chers auditeurs et auditrices? Le premier fils de la parabole a d'abord refusé totalement, puis, malgré tout, il est allé au travail. Il s'est repenti. Il est allé au travail. Le second a dit, « Moi, j'irai. » Ah oui, avec beaucoup de... un bonbon sans torse peut-être, en crânant, moi j'irai. Mais il n'est pas allé du tout. Or nous sommes arrivés à un moment critique de l'histoire du monde. Croyez-moi, c'est vrai. Une séparation s'opère sur la terre. Les uns sont pour la moisson, les autres pour la vendange. C'est la 11e heure. Il nous reste très peu de temps. Levons-nous et soyons des ouvriers pour le Seigneur. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière. Mais avant, je voudrais vous dire les paroles d'un vieux cantique. Demeure en moi, Jésus, et qu'en toi je demeure, trouvant dans ton amour le plus fort des liens, portant beaucoup de fruits chaque jour, à chaque heure, et renonçant à tout pour jouir des vrais biens. Toutefois, que jamais mon cœur ne se confie en mes pas chancelants pour arrivé au but, tu donnas pour les tiens, divin Jésus, ta vie, et c'est mon seul espoir de paix et de salut. Prions. Seigneur, quel langage que celui de ton Saint-Esprit, ô notre Dieu, et que nous avons besoin que tu ouvres nos cœurs et que tu éclaires les yeux de notre entendement pour comprendre quelque chose des privilèges que tu accordes à tes enfants. Que nous sommes loin encore de répondre à ton amour, Seigneur, mais c'est que nous le comprenons dans une si faible mesure, dans ce moment même. Viens parler à nos cœurs. Donne-nous de croître dans ta grâce et dans ta connaissance, afin que nous soyons fortifiés en toute manière par ta force glorieuse pour soutenir tout avec patience, avec douceur et avec joie. Père Saint, nous te rendons grâce de ce que nous pouvons ainsi, dès le matin, nous approcher de toi pour te consacrer les premiers moments de cette journée. Daigne en bénir pour nous toutes les heures. Accompagne-nous dans nos diverses occupations et que nous puissions nous y livrer toujours avec le sentiment que tu nous vois, que tu te tiens près de nous. Donne-nous au notre Dieu d'être plus préoccupé du désir de te glorifier que de celui de réussir dans nos entreprises et de notre sanctification que de notre succès dans ce monde. Que ta grâce et ta paix soient avec nous, avec tous ceux qui nous appartiennent et avec tout ton peuple en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et chers auditeurs et auditrices, à demain matin pour la suite de cette série. Soyez bénis et à bientôt à nouveau. Au revoir.